Bien sûr, se rappeler hein, cette entrée triomphale, et puis pas seulement, jusqu'à la passion de notre Seigneur et sa résurrection. Et aussi, je continue ma série sur les sept églises de l'Apocalypse. On continue, hein, c'est, ils sont toujours d'actualité. Et d'abord, je vous salue. Hein, bonjour à chacun. On vous salue. On est bien content d'être ensemble. Voilà. On va se tenir chaud parce que pour un mois d'avril, il fait encore assez froid. Il n'est plus que l'ombre de lui-même. Il a bien connu son heure de gloire dans sa jeunesse, en tant que chanteur à succès. Mais aujourd'hui, il fait tout pour rester ou paraître jeune, à coup de chirurgie esthétique, de botox et compagnie. Mais sa voix le trahit. Il a une voix éraillée, qui n'est pas toujours juste. Il a les kilos en trop aussi, qu'il n'avait pas quand il était jeune. C'est pas facile de vieillir. Surtout pour une star de la chanson, pour une célébrité. Il n'était plus que l'ombre de lui-même. Et être l'ombre de soi-même, c'est vouloir paraître ce qu'on a été et qu'on n'est plus, ou presque plus. C'est juste avoir gardé son nom. Et le danger d'être l'ombre de soi-même, il existe aussi pour les chrétiens. De n'avoir gardé de leur vie chrétienne que le nom. Que le nom. Ce sont des chrétiens de nom, mais leur vie n'est plus ce qu'elle était au début. Leur ferveur des débuts a disparu. Ils se sont endormis spirituellement. Alors, après la quatrième lettre adressée à l'église de Thyatire, une église, on a vu, qui était fidèle et affermie, mais avec des compromis, eh bien, on va voir la cinquième lettre qui est adressée à l'église, à une église affermie, pas affermie, mais et endormie. Une église pas affermie qui était endormie. On va donc voir la lettre, la cinquième lettre qui s'adresse à l'église de Sardes dans Apocalypse chapitre 3 versets 1 à 6. Apocalypse chapitre 3, les versets 1 à 6. Voilà, si vous voulez chercher dans vos Bibles. Et avant ça, je vais prier. Père éternel, nous te remercions parce que tu bâtis ton église, Seigneur, et tu as à nous dire par chacune de ces lettres, Seigneur, parce que tu nous aimes, c'est l'objet de ta grâce. Merci Seigneur, merci pour ta parole. Je te prie de nous ouvrir le cœur et l'intelligence, Seigneur, pour recevoir ta parole, pour recevoir ce que tu veux nous dire, pour Seigneur que nos vies soient de plus en plus à ton image, Seigneur. Voilà pour ta joie et pour te refléter dans ce monde par Jésus qui nous a tant aimés. Amen. Donc Apocalypse 3, 1 à 6. Écris à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les sept esprits de Dieu et les sept étoiles. Je connais tes œuvres. Tu as le renom d'être vivant, mais tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui allait mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Garde-la et repens-toi. C'est moi qui ai rajouté la parole, ça veut dire ça, hein. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, garde-la et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras point à quelle heure je viendrai te surprendre. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Ainsi, le vainqueur se vêtira de vêtements blancs. Je n'effacerai pas son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Jusqu'ici, donc, la parole de Dieu. Alors, de ce texte, on peut affirmer qu'un chrétien, un vrai chrétien, il veille. C'est un veilleur. Il veille pour ne pas s'endormir. C'est ce que je vous propose de voir tout au long de ce message. Donc, un vrai chrétien veille pour ne pas s'endormir. Et en trois points, nous verrons que, premièrement, étudions les causes d'un endormissement spirituel. Qu'est-ce qui fait que des chrétiens parfois s'endorment? Quelles sont les causes? Deuxièmement, nous verrons les conséquences d'un endormissement spirituel, les conséquences d'un manque de vigilance. Et troisièmement, nous verrons comment se réveiller ou rester éveillé pour être vainqueur. Comment se réveiller ou rester éveillé pour être vainqueur. Donc, ce que je vous propose de voir. Alors, cette église de Sardes, c'est bien comme à l'accoutumée de donner le contexte hein, de cette déjà la ville de Sardes. Donc c'était l'ancienne capitale du royaume de Lydie, en Asie mineure, la Turquie d'aujourd'hui. Alors, les noms, ça va vous dire quelque chose. Cette ville de Sardes, elle était située près du fleuve Pactole. Et elle fut la capitale du riche roi Crésus, qui a donné l'expression « riche comme Crésus », qui plus est à côté du fleuve Pactole. La ville était donc une ville riche. C'était une ville connue comme une ville très bourgeoise. Elle avait une industrie de laine qui était florissante, mais cette ville était aussi connue pour sa débauche. Et cette ville, elle s'imaginait invincible, évidemment, elle était très riche. Elle se croyait invincible, mais par manque de vigilance, elle fut vaincue par ses ennemis, les Perses, qui ont fini par l'envahir. Et puis ensuite, il y a eu les Romains. Et sous l'occupation des Romains, du temps de l'apôtre Jean qui a écrit cette lettre, elle vivait de son renom, cette ville. Elle vivait dans l'ombre de sa puissance passée, de son prestige passé. Et l'église de Sardes, elle a suivi le déclin de la ville de Sardes. Parce que la vie de la ville avait déteint sur la vie de l'église. L'église est devenue mondaine, faisait beaucoup de politique. Alors, aujourd'hui, c'est important de voter, hein. Je précise, hein. Voilà. Faut mettre la politique à sa juste place et bien sûr que notre vie avec le Seigneur en premier. Voilà. L'église est devenue mondaine. La vie de la ville a détruit sur la vie de l'église. Et de ce fait, qu'est-ce qui s'est passé? L'église s'est endormie. Elle est devenue même morte spirituellement. Selon le grave reproche que lui fait le Seigneur au verset 1, je cite, elle passait pour être vivante, ou elle avait le renom selon les traductions. Elle passait pour être vivante, mais était morte. Littéralement, l'expression « tu passes pour être vivant », ça peut se traduire par, et c'est ce que ça veut dire, on peut le traduire par « tu as le nom de vivre ». Tu as le nom de vivre. Elle avait juste le nom, mais elle n'avait pas la vie. Et toute l'Église est qualifiée de morte. Malgré quelques hommes fidèles, tous sont responsables de cet état. Et cette lettre, elle est là pour notre, comme les autres lettres, cette lettre, elle est là pour notre instruction, pour nous éviter de nous endormir. Et premièrement, je vous propose de voir qu'est-ce qui peut mener à un endormissement. Quelles sont les causes d'un endormissement spirituel? Quand on s'endort, c'est qu'on ne veille plus. Parfois, je suis devant la télé, je lutte parce qu'il y a un programme intéressant, mais non, je me laisse prendre par le sommeil qui parfois est plus fort. Après une belle journée. Quand on veille, quand on s'endort, c'est qu'on ne veille plus. La vigilance diminue. Et pour cause, dans cette lettre, en comparaison aux autres lettres, il n'est pas question ici de faux docteurs, comme à Pergame. Il n'est pas question de faux prophètes, comme à Thyatire. Donc il n'y a pas de problème à l'intérieur de l'Église, il n'y a pas non plus de problème de persécution à l'extérieur. Donc, facile de s'endormir. Et même Satan n'est pas mentionné ici. Il n'est donc pas non plus le problème essentiel, même s'il travaille à faire tomber l'Église, et il peut être la cause d'un endurcissement. Le problème de l'Église de Sardes, c'est qu'elle était trop tranquille. Elle était trop tranquille, elle était autosuffisante dans un bien-être financier, elle était bien installée dans son confort. Et vous savez, c'est quand tout va bien. Alors, je dis pas qu'il faut chercher les problèmes, ils arrivent bien tout seuls, hein. Mais c'est quand tout va bien qu'il faut être vigilant. Autrement dit, quand il y a des problèmes, ne voyons pas les problèmes comme des problèmes à la base, mais plutôt comme des moyens de nous réveiller quand ça arrive dans l'Église. Et aussi dans votre vie personnelle, quand vous rencontrez, si vous ne rencontrez jamais d'opposition, jamais de difficultés dans votre vie chrétienne, il faut s'examiner. Est-ce que vraiment on vit sa vie chrétienne quand c'est trop tranquille? Alors l'Église, elle avait une belle apparence. Elle avait l'apparence d'être vivante, mais ce n'était qu'un vernis religieux. Alors certainement qu'elle devait avoir un beau bâtiment, elle devait avoir une louange avec des bons musiciens, elle devait avoir beaucoup de moyens, elle devait avoir des traditions religieuses, des rites bien établis. Alors pourquoi changer? On a toujours fait comme ça. Ça roule. Sauf que l'Église manquait de vie. Et elle s'était enfermée dans un formalisme religieux. La routine, quoi. Et qu'est-ce qui avait disparu? L'adoration. L'adoration avait disparu. Jésus n'était plus au centre du culte par le Saint-Esprit. Jésus n'était plus au centre de leur culte par le Saint-Esprit. Et l'Église est devenue hypocrite avec beaucoup de chrétiens de nom. Qu'est-ce que c'est un chrétien de nom ? On peut dire un chrétien du dimanche ? On peut naître dans une famille chrétienne ou appartenir à une Église sans être converti, sans être passé par la repentance et la nouvelle naissance, par le Saint-Esprit, par la foi en Jésus, qui s'est sacrifié pour nous. Mais, même si on est chrétien, un chrétien né de nouveau, le danger est là de s'endormir. Et c'est le pourquoi de cette lettre. Comment est-ce qu'on s'endormit lorsque Jésus n'est plus notre priorité première? Pourquoi? Quand est-ce que Jésus n'est plus notre priorité première? Eh bien, quand on n'a plus de relation personnelle avec lui. On néglige notre culte personnel. L'expression personnelle de la foi disparaît. Par manque de temps, on est trop occupé, du coup bien d'autres choses secondaires ont pris le dessus. Qu'est-ce qui s'est passé à Sardes? Pourquoi en sont-ils arrivés là? Alors, qu'est-ce que fait le Seigneur? Qu'est-ce qu'il leur dit? Je connais tes œuvres. Les œuvres. Ce sont nos œuvres, bonnes ou mauvaises, qui vont démontrer notre foi ou notre manque de foi. C'est pourquoi le Seigneur éprouve les œuvres de chaque église. Vous avez remarqué jusqu'à présent, le Seigneur, il met le focus sur les œuvres de chaque église. Les œuvres sont importantes. Jacques, l'épître de Jacques, nous dit, chapitre 2, verset 26, « Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. » Cette église, ils avaient bien la foi dans le sacrifice de Jésus, mais ils se sont arrêtés là. Ils n'avaient pas les œuvres. Ou plutôt, leurs œuvres n'étaient pas parfaites, selon le verset 2. Et je vais voir plus en détail ce mot parfait, qu'est-ce qu'il y a derrière, qu'est-ce que ça veut dire. En fait, les œuvres de l'église de Sardes visaient juste à soigner l'apparence, à paraître spirituelles. Et ces œuvres, donc, elles étaient vides, elles étaient creuses, elles étaient inachevées, elles étaient faites négligemment, à la va-vite. On fait le culte, c'est une formalité comme une autre. Pourquoi cette négligence? Eh bien, en examinant cette lettre, on peut y trouver la cause. En rapport avec les œuvres, justement, alors, on se rappelle que c'est le Seigneur qui nous sauve par grâce et pas par nos œuvres. On est sauvé par grâce. Et je vais relire l'Épître aux Éphésiens, chapitre 2, versets 8 et 9. « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. » Alors cette parole du Seigneur, elle est là pour nous donner quoi? Pour nous donner l'assurance du salut. C'est lui qui nous sauve. L'assurance du salut en Jésus-Christ. Une assurance qui est fondée pas sur nous-mêmes, pas sur nos efforts, pas sur nos œuvres, même si elles sont importantes, mais sur son œuvre à lui, par son sacrifice à la croix, et non pas sur nos œuvres. Mais ce qui s'est passé pour l'église de Sardes, c'est que les chrétiens de Sardes ont mal compris l'assurance du salut, qui découle de la grâce, cette assurance qui découle de sa grâce. Ils pensaient, on est sauvés, donc c'est bon, on a un ticket pour le ciel, on a nos noms écrits sur le livre de vie, on peut se laisser aller à pécher. Pas besoin de faire de bonnes œuvres. Résultat, perte de vigilance. Ils se sont endormis. Alors, voyons plus en détail, deuxième point, quelles sont les conséquences d'un endormissement spirituel par manque de vigilance? Une des conséquences quand on s'endort, eh bien, c'est de devenir de plus en plus complaisant face au péché. L'église de Sardes ne s'était pas démarquée du mode de vie de la ville de Sardes. Vous avez remarqué dans cette lettre qu'il est question de vêtements. Il est question de vêtements et Jésus mentionne un petit reste qui n'a pas souillé ses vêtements. Certains, ça veut dire que certains avaient leurs vêtements souillés par le péché. Voire certains n'avaient pas de vêtements du tout. Ça, c'est une des conséquences, être complaisant avec le péché. Une autre conséquence, quand on s'endort, eh bien, c'est que on ne veille plus les uns sur les autres. Et, évidemment, comment peut-on veiller les uns sur les autres si on ne veille pas sur soi? Alors, l'égoïsme s'est installé, Les prières sont constamment tournées vers soi, égoïstement. Donc on ne veille plus les uns sur les autres. Une autre conséquence de l'endormissement, c'est qu'on va de moins en moins à l'église. Le nombre de chaises vides augmente. Alors, pourquoi certains ne vont plus à l'église ? Oui, certains attendent plus que de remplir les chaises dans l'église. Ils peuvent être déçus par une certaine routine, un formalisme qui s'est installé. Mais ils oublient qu'ils peuvent contribuer eux-mêmes au réveil par leur présence. Et l'église a besoin d'eux, comme ils ont besoin de l'église. Mais la conséquence principale d'un endormissement spirituel que le Seigneur condamne, eh bien, c'est qu'on fait semblant. On se fait une fausse renommée. On soigne l'apparence. On sait jouer aux chrétiens. On a le sourire du dimanche matin. Et puis à la maison, c'est autre chose. On vit sur ses souvenirs. On vit sur ses expériences passées. On écoute en boucle le cantique qui nous a fait tant vibrer quand on s'est converti. Et alors, on veut le passer en boucle. Ou alors, on regarde le film qui nous avait tant touché. On le regarde aussi en boucle, espérant que ça va réveiller en nous quelque chose. Mais là, pas de résultat. On a perdu la flamme des débuts de notre vie chrétienne. On professe juste sa foi, mais derrière, c'est creux. Alors on ne fait rien ou presque plus rien. Jésus a dit en Matthieu 7, verset 21, « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Alors, eh bien, il ne s'agit pas de sauver les apparences, mais il s'agit de sauver le cœur. Les apparences sont trompeuses et doivent tomber. C'est le pourquoi de cette lettre que le Seigneur écrit à son Église, nous écrit à chacun. Mais il y a tout de même de l'espoir. Parce que si la flamme n'est plus là, un peu de grâce, un peu de vie chrétienne reste. Il reste un petit lumignon qui peut raviver cette belle flamme. Et vous savez, nous, on a fait l'expérience de se chauffer à l'insert. On se chauffe encore à l'insert. Hein. Et parfois, il reste juste une petite braise, un petit lumignon. Et ce petit lumignon peut servir à raviver tout l'insert. Et qu'est-ce qu'il faut ? Eh bien, il faut juste remuer les braises quand même. Il faut les secouer. Hein. Et là, on ferme la porte et on voit une belle flambée qui reprend à partir d'un petit lumignon, une petite braise qui restait. Mais qui va raviver le petit lumignon dans l'église ? Qui va raviver le petit lumignon dans l'église ? Eh bien, voyons le troisième point, comment se réveiller ou rester éveillé. Comme dans les autres lettres, le Seigneur se présente. Il se présente sous un aspect qui répond à la situation et aux besoins de l'église à qui il s'adresse. Comment est-ce qu'il se présente ici ? Verset 1, « Celui qui a les sept esprits de Dieu et les sept étoiles. » Les sept esprits de Dieu, eh bien, c'est le Saint-Esprit, l'Esprit Saint. Et les sept étoiles sont les responsables des églises. Qui est-ce qui va raviver ce petit lumignon ? Qui est-ce qui va réveiller son église ? Eh bien, c'est le Seigneur lui-même qui va réveiller son église. Comment est-ce qu'il va réveiller son église ? Par l'Esprit Saint. Dieu nous a donné non seulement son Fils, mais il nous a donné aussi son Esprit Saint. Il nous a tout donné. Quelle grâce ! Et qu'avons-nous fait des dons de l'Esprit ? Comment le Seigneur procède avec une église morte ? Eh bien, si les vivants enterrent leurs morts, le Seigneur, lui, n'enterre pas son église. Il la ressuscite. De toute façon, il la ressuscite. Alors il y a de l'espoir, parce qu'il est fidèle. Et comme dans les autres lettres, vous avez remarqué, c'est la même structure. Comme dans les autres lettres, si on ne réagit pas, c'est lui-même qui intervient. Si on ne se réveille pas, c'est lui-même qui nous réveillera. Mais le réveil risque d'être brutal. On risque d'être secoué. Et dans l'histoire de l'Église, au début de l'Église, le Seigneur, après qu'il soit parti, il avait laissé la mission à ses disciples d'aller par le monde porter la bonne nouvelle. Qu'est-ce qui s'est passé au début ? Eh bien, les disciples étaient tellement bien à Jérusalem, Ils sont restés entre eux. Ils ne sont pas partis tout de suite. Et qu'est-ce qu'il a fallu pour qu'ils partent ? La persécution. Là, ils sont partis. Et là, ils ont répandu la bonne nouvelle. Ils étaient bien ensemble, et c'est bien d'être bien ensemble. Verset 3. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras point à quelle heure je viendrai te surprendre. Ne voyons pas ça comme un jugement de la part du Seigneur, mais au contraire, comme un effet de sa grâce. C'est ça, c'est parce qu'il nous aime, c'est l'effet de sa grâce qu'il ne nous laissera jamais. Il ne va pas nous laisser mourir spirituellement. Quelle grâce ! C'est pas un jugement, c'est sa grâce qui fait qu'il nous réveille. C'est lui qui nous réveille quand on s'endort. Il nous réveille quand on s'endort, plutôt que d'effacer nos noms du livre de vie. Il nous réveille. Au verset 5, il est question de ce livre. Au verset 5, Jésus dit du vainqueur, « Je n'effacerai pas son nom du livre de vie. » Alors sur ce livre sont inscrits les noms de ceux que Dieu a choisi de sauver de toute éternité. Il nous a choisis. Pas parce qu'on est meilleur que les autres, c'est parce qu'il est souverain. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on peut avoir son nom effacé du livre de vie ? Autrement dit, peut-on perdre son salut pour un chrétien ? C'est une question qui fait encore débattre beaucoup dans les églises. Est-ce qu'on peut perdre son salut pour un chrétien ? Réfléchissons. Si Jésus a effacé les péchés de ceux qui croient en lui, était-ce pour effacer de son livre le nom d'un chrétien qui viendrait à s'endormir ? Je ne crois pas. Si Jésus a effacé nos péchés, était-ce pour effacer le nom d'un chrétien qui viendrait à s'endormir ? Alors attention, n'allons pas plus loin que ce qui est écrit. La promesse que nos noms ne seront pas effacés ne signifie pas que les noms des autres seront effacés. C'est pas ce qui est écrit. Des autres chrétiens, j'entends. Parce que dans sa grâce, eh bien, c'est le Seigneur qui fait en sorte que le nom des sauvés reste dans son livre. C'est dans sa grâce que le Seigneur fait en sorte que nos noms restent dans son livre, pour que nous soyons vainqueurs, parce qu'il nous a élus. L'élection. Je ne vais pas m'attarder plus, mais c'est une des raisons pour lesquelles on peut être sûr de son salut. Et pour cela, puisque c'est le Seigneur, eh bien, le Seigneur saura nous réveiller si besoin. Il s'agit de veiller. Et on a chanté tout à l'heure, chaque jour à chaque heure. Il ne s'agit pas de veiller une fois par jour, ou une fois par semaine, ou une fois par mois. Il s'agit de veiller heure par heure, H24. Puisque le Seigneur avertit qu'il peut surgir à n'importe quelle heure. Alors, peut-être ça peut sembler, mais oui, ça c'est pour les super chrétiens. C'est le Seigneur qui nous réveille. C'est lui qui nous maintient réveillés. C'est possible. Il nous maintient éveillés par le Saint-Esprit, que tout chrétien a reçu lors de sa conversion. Et le Seigneur nous exhorte. Il nous exhorte à quoi ? Il nous exhorte, c'est pourquoi le Seigneur nous exhorte à nous rappeler au verset 3. À nous rappeler comment nous sommes devenus chrétiens. Comment on redevient chrétien ? Pas par nos mérites, simplement en recevant. En recevant par la foi et la repentance le pardon que nous offre Jésus, mort sur la croix et ressuscité pour tous. Pas seulement pour quelques-uns. Le Seigneur est mort pour tous. Et ce n'est pas par le mérite de nos bonnes œuvres qu'on est sauvé. Verset 3, je relis. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Garde-la et repens-toi. Retour aux sources. Rappelle-toi. Est-ce que vous vous rappelez comment vous étiez lorsque vous avez entendu et reçu l'évangile pour la première fois? Est-ce que vous vous rappelez de ce moment précis? Et est-ce que vous vous rappelez quelle est la personne qui vous l'a annoncé pour la première fois? Comment ça s'est passé, la première fois? Et aujourd'hui, est-ce que vous vous sentez comme au premier jour? Vous aviez compris le sacrifice de Jésus pour vous? Pour ma part, je me rappelle très bien de la personne qui m'a annoncé l'évangile, hein, pour la première fois. C'était quelqu'un qui était sorti de sa zone de confort pour aller annoncer l'évangile dans son bibliobus. Il parcourait les plages comme ça. Il stationnait au bord des plages, j'étais en vacances, et c'est comme ça que je me suis arrêté, que j'ai discuté avec lui. Et il m'a annoncé l'évangile. Et dernièrement, alors peut-être Vous vous souvenez pas de quelqu'un en particulier, mais dernièrement, il y avait une pastorale à Toulouse. Eh bien, j'ai entendu le témoignage par Christian, le responsable de la CLC, une jeune fille qui est venue dans la librairie, qui lui a dit qu'elle s'est faite baptiser. Elle venait chercher de la littérature. Elle s'est faite baptiser parce qu'elle avait reçu dans sa boîte à lettres un traité. Un traité. Un simple traité. Résultat, elle s'est convertie, elle s'est faite baptiser. Quelqu'un est sorti de sa zone de confort pour aller poster le traité dans sa boîte à lettres. Jésus a quitté le confort de son ciel pour nous rencontrer. Personnellement, chacun d'entre nous. Alors oui, le Seigneur nous exhorte à nous rappeler, à nous souvenir. Et vous savez, l'exhortation du Seigneur à nous souvenir, c'est pas pour vivre sur le passé. Ah, le bon vieux temps. C'est pas pour n'être plus que l'ombre de soi-même. Mais ce souvenir, c'est pour nous réveiller, pour aller de l'avant avec lui. Et quand on est réveillé, c'est alors qu'on peut réveiller les autres. Mon frère, ma sœur. Et c'est pourquoi le Seigneur demande à l'Église d'affermir les frères et sœurs qui ne sont pas encore morts spirituellement. Verset 2, « Sois vigilant et affermis le reste qui allait mourir. » Comment est-ce que ce réveil va se faire? Par l'Esprit Saint. Par l'Esprit Saint. On peut aimer, on peut fortifier nos frères et sœurs, on peut prier les uns les autres. Par l'Esprit Saint. Peut-être vous ne passez jamais de coup de fil à un frère ou sœur de l'Église, aux autres. Parce que vous vous dites, moi j'ai rien à apporter aux autres. Je peux rien leur apporter. Mais c'est faux. Vous pouvez donner ce que vous avez reçu. Comment est-ce que vous vous êtes senti lorsque quelqu'un a pris de vos nouvelles alors que vous étiez malade? Pas un grand discours, juste un petit SMS. Comment vas-tu? Trois mots. J'en ai reçu un, il n'y a pas longtemps, et ça m'a redonné du baume au cœur. Il suffit de pas grand-chose. L'assurance du salut. Le Seigneur veut nous donner l'assurance du salut. Et pour rester éveillé, eh bien, il nous faut revenir à une juste compréhension de cette assurance du salut, du pourquoi de l'assurance du salut. Pourquoi le Seigneur veut-il qu'on soit sûr de son salut? Pourquoi est-ce qu'il veut nous donner cette assurance? Pas pour qu'on se laisse vivre, qu'on se laisse aller, mais c'est au contraire parce que nos noms sont inscrits dans son livre de vie et que nous avons le Saint-Esprit que nous devons faire tous nos efforts pour œuvrer pour lui, par reconnaissance pour ce qu'il a fait. Et qu'on va fêter et refêter à Pâques. Par amour pour lui, et pas pour sauver les apparences. Voilà pourquoi Dieu veut nous donner l'assurance du salut. Le Seigneur fait le reproche à l'église de Sardes que leurs œuvres ne sont pas parfaites. Alors j'ai regardé la signification du mot. Le mot parfait veut dire aussi achevé. Donc ça veut dire que leurs œuvres étaient inachevées. Est-ce que c'est un appel au perfectionnisme? Par exemple, faire le meilleur gâteau. Ou faire la plus belle décoration pour le culte à l'occasion de Noël. Ou interpréter le plus beau chant. Alors oui, le Seigneur, il est digne qu'on lui apporte le meilleur de ce qu'il nous a donné. Il en est digne. De ce que nous savons faire. Mais les œuvres parfaites, celles qu'il attend de nous, ce sont pas celles qui semblent les plus belles. Ou plus spirituel que les autres, en apparence. C'est pas celle-là, les œuvres parfaites. Les œuvres parfaites, ce sont les bonnes œuvres que lui a préparées d'avance. Ce sont ses œuvres à lui. D'après Éphésiens 2:10, ce sont les œuvres qu'il a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Ça veut dire que ce sont ses œuvres à lui. Ce sont pas nos œuvres à nous. Ce sont ses œuvres à lui qu'on ne peut faire qu'avec lui, avec les dons et la puissance de l'Esprit qu'il distribue à son Église. Ça, ce sont les œuvres parfaites qu'on fait avec lui, qu'il a préparées d'avance. Oui, le mot parfait veut dire aussi achever. Alors, on peut quitter cette terre sans avoir eu le temps d'achever une œuvre qui nous tient à cœur. Mais même si elle n'est pas achevée, le plus important, c'est de faire tous nos efforts pour les achever pendant notre parcours ici-bas. Et pour cela, eh bien, j'aimerais vous poser la question, est-ce que vous avez des objectifs dans votre vie chrétienne? Est-ce que vous avez des objectifs à long terme et dans un futur proche, à court terme? Parce que c'est en vous fixant des objectifs que nous allons pouvoir avancer. Et j'en ai fait l'expérience. Parfois, vous savez, on ne sait pas par où commencer notre journée. Parce qu'on a tellement de choses à faire qu'au final, on ne fait pas grand-chose. Parce qu'on manque d'organisation. Et qu'est-ce qui manque? Il manque une planification, des objectifs. Quel est mon objectif à long terme et mon objectif à court terme jusqu'au moment présent? Fixez-vous des objectifs. Des objectifs qui soient atteignables. Par exemple, si vous avez l'objectif de vous former pour servir le Seigneur, ça peut aller d'une formation biblique à l'apprentissage d'une langue, ou d'un logiciel, ou d'un instrument de musique. C'est un bel objectif. Eh bien, commencez petit, par planifier une heure dans votre journée. Et pas seulement planifier, mais tenez-y-vous. Tenez-vous à vos objectifs. Au bout de 30 jours, vous aurez suivi 30 heures de formation. Et vous maîtriserez le logiciel qui va vous permettre de mieux servir le Seigneur. Vous jouerez mieux d'un instrument de musique. Vous connaîtrez encore mieux sa parole pour l'annoncer. Et vous avez remarqué toujours dans la... Cette lettre, elle suit aussi la même structure que les autres. Eh bien, comme dans les autres lettres, Jésus promet une récompense au vainqueur. Une récompense. Et là, il faut bien différencier, il faut bien nuancer. Ne confondons pas le don gratuit et la récompense. Le salut est gratuit et se caractérise par le vêtement blanc que Jésus donne à chacun, chacune qui se reconnaît pécheur devant lui, qui se repent de ses péchés et qui accepte pour lui-même le sacrifice de Jésus à la croix, mort et ressuscité, pour effacer la saleté de son péché. Il est question de vêtements blancs. Ce vêtement, c'est le vêtement que le Seigneur nous a donné déjà, lorsqu'on a cru en lui. On n'a aucun mérite, on n'a fait que le recevoir. Il nous a revêtus de sa justice, de sa pureté. Ça, c'est pour le don. La récompense, elle. La récompense, eh bien, elle est donnée à ceux qui auront gardé leur vêtement blanc qui leur a été donné au départ. C'est-à-dire ceux qui se seront gardés des souillures du monde. À l'église de Sardes, ils n'étaient pas nombreux. Quelques hommes, ça veut dire littéralement. Eh bien, c'était gardés purs. Les vrais. Pas ceux qui portaient juste le nom d'être en vie ou qui en avaient l'apparence, mais les chrétiens qui aiment le Seigneur. Et là, il y a toujours cet équilibre dans notre vie chrétienne. Le salut est l'œuvre du Seigneur. Mais si le salut est l'œuvre du Seigneur, nous avons notre part de vouloir nous garder purs, de vouloir garder notre vêtement blanc, en restant éveillés. Comment? Par sa puissance, pas par la nôtre, par le Saint-Esprit, pas par nos propres forces. C'est notre responsabilité avec l'aide du Seigneur. C'est ça qui va nous réveiller. Donc c'est vraiment, dans la vie chrétienne, c'est à la fois, c'est toujours le Seigneur qui fait la première part. Et il nous demande, nous, d'entretenir ce qu'il nous a donné, d'entretenir la flamme. Et on l'entretient avec lui, par son Saint-Esprit. Est-ce que ce vêtement caractérise ta vie? Alors peut-être il y a quelques tâches. Tu peux encore te repentir en demandant pardon au Seigneur. Et si effectivement ce vêtement blanc caractérise ta vie, si tu veux le maintenir blanc, eh bien oui, la récompense elle est pour toi. Oui, tu es digne. Vous avez remarqué le mot digne? Qu'est-ce que ça veut dire digne? À la base, personne n'est digne d'être sauvé. Mais oui, il y en a qui sont dignes de recevoir la récompense, ceux qui auront gardé leur vêtement blanc. Et quelle est-elle cette récompense? Eh bien, elle sera de marcher avec le Seigneur, avec ce vêtement blanc qu'il t'a donné. Marcher avec le Seigneur, c'est marcher dans l'amour, la vérité, la justice, parce qu'il est tout cela. Et voilà la récompense suprême, vous avez remarqué? C'est toujours la même. Cette récompense, c'est le Seigneur lui-même. De toujours mieux connaître le Seigneur, toujours plus proche de lui, et d'être connu de lui. Il n'effacera pas nos noms de son livre, mais il confessera avec joie nos noms devant son Père et devant ses anges. Avec joie. Le mot confesser, c'est vraiment le proclamer avec joie. Alors oui, j'aime bien ce passage dans Michée 6, verset 8, qui je trouve qu'il résume bien la vie chrétienne. Michée 6, 8, On t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Le Seigneur nous promet de marcher avec lui en vêtements blancs. Alors la marche, ça évoque le mouvement. Eh bien, mettons-nous en mouvement avec la puissance du Saint-Esprit. Et nous avons la promesse que si nous demandons la promesse, que si nous demandons le Saint-Esprit au Père, il nous le donne. Luc 11, verset 13. Si vous pensez que vous manquez de force, vous manquez d'amour, vous manquez de bonté, de bienveillance, vous manquez du fruit de l'Esprit, demandez-le à Dieu. Il nous promet qu'il nous le donnera. Luc 11, verset 13. Il donnera l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent. Amen, je vais prier. Seigneur, merci parce que encore, Seigneur, toute la gloire te revient, Seigneur. C'est toi qui as commencé, Seigneur, en t'offrant toi-même à la croix. Et ce que tu as commencé en nous, Seigneur, tu le finiras, Seigneur. Merci parce que dans ta grâce, Seigneur, tu nous réveilles, tu nous fais marcher avec toi. Seigneur, tu nous diriges. Et Seigneur, c'est autant de témoignages de ton amour, Seigneur, que tu ne nous laisses pas. Tu veilles, Seigneur, et tu nous aides à rester vigilants. Aide-nous à rester vigilants, à veiller, Seigneur, avec tout ce que tu mets à notre disposition, avec ta personne. Merci, mon Dieu, de nous garder dans cette flamme, notre amour pour toi, après tout ce que tu as fait pour nous. Et Seigneur, que nous marchions avec toi, Seigneur. Merci de guider chacun dans ces œuvres que tu as préparées d'avance, Seigneur, pour que nous les pratiquions, tes œuvres à toi. Seigneur, merci parce que, Seigneur, oui, la vie, même s'il y a des difficultés, la vie chrétienne, elle est passionnante avec toi. Et je prie, Seigneur, que nous connaissions cette joie, chacun, de te servir, d'être dans ton plan. Par Jésus, ton Fils. Amen. Amen.